Et comme convenu, nous sommes en direct avec Coach Himanshu Bilou pour parler du concept de l'overthinking et comment cela impacte nos relations humaines. Himanshu Bilou, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très très bien, merci.
Bonjour, ça va très bien.
Bonjour, bonjour Selma.
Alors, avant d'aller plus loin peut-être dans notre échange, quand on parle d'overthinking, ça veut dire quoi exactement? Question de mettre les personnes qui nous écoutent dans le bain, en quelque sorte.
Alors, on utilise un anglicisme, parce que, bon, l'overthinking, je crois qu'on n'a pas trouvé de mot en français pour le définir ou pour le nommer, mais on peut remplacer overthinking en français par la rumination mentale. C'est-à-dire le fait de ressasser en continu ou ressasser en boucle des pensées négatives, des sentiments désagréables. Donc, on pourrait définir l'overthinking ou la rumination mentale par le fait de ressasser en boucle de façon obsessionnelle des pensées négatives et des sentiments désagréables et le fait en fait de s'obstiner à se faire des nœuds au cerveau gratuitement. Voilà, donc on est appelé, quand on est un overthinker, on est une personne qui traque les indices, qui réfléchit pendant des heures, qui a toujours une hantise relative à son apparence, à sa famille, à ses relations sociales, à sa carrière, à sa santé. Donc c'est une personne qui a le sentiment d'être étouffée en continu.
Et comment expliquer que certaines personnes, justement, sont en quelque sorte des overthinkers, tandis que d'autres, non?
Écoutez, on peut l'expliquer par des dysfonctionnements, parce que il y a certains médecins, certains neurologues différentes recherches scientifiques nous ont fait comprendre qu'il y a des dysfonctionnements à l'origine d'une mauvaise régulation des émotions et qui va aboutir in fine à de l'overthinking ou de la rumination mentale. Donc le dysfonctionnement du cortex préfrontal qui est responsable de la régulation des émotions, s'il ne fonctionne pas correctement, il va pousser la personne à avoir cette rumination en boucle, ces idées qui nous dépassent, ce sentiment d'étouffement, etc. Mais aussi des tendances à la dépression. Je veux dire plus loin encore. Donc oui, il y a un dysfonctionnement qui peut être à l'origine et qui peut favoriser cette tendance chez certaines personnes et pas d'autres. Maintenant, il n'y a pas que ça. Je veux dire que le fait de penser à d'avoir des pensées négatives, c'est quelque chose d'assez naturel. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait une seule personne entre nous qui n'a jamais eu dans le passé ou actuellement des idées négatives, des pensées négatives, des émotions désagréables. Dont il n'arrive pas à se débarrasser. On est clairement enfermé et on n'arrive pas du tout à échapper à ce sentiment. C'est quelque chose de naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est de se voir bloqué dans un overthinking en continu, au quotidien. Tous les jours que Dieu fait, on va se retrouver soit au démarrage de la journée, soit au moment de la pause-déj, soit avant de dormir, dans un engrenage qui va être difficile à gérer. C'est ça qu'on peut nommer de l'overthinking.
Et justement, overthinking, ça prend beaucoup d'espace, ça nous bouffe le cerveau, en quelque sorte, on est constamment en train de réfléchir à des probabilités qui risquent même pas d'arriver. Mais comment justement ce concept ou cette notion d'overthinking peut-elle impacter nos relations humaines?
Avant de dire comment est-ce qu'elle pourrait impacter les relations sociales ou les relations humaines, il faudrait d'abord catégoriser l'overthinking et le mettre en différentes catégories. On pourrait déjà en citer quatre. Il y a la rumination à propos du passé. Vous savez, quand on repense en continu à des échecs, à ce qu'on a pu dire ou ce qu'on a pu faire, au moment embarrassant qu'on a pu traverser, ça peut être très fatigant, épuisant dans certains cas. Là, c'est le premier type d'overthinking. Le deuxième type, ça pourrait être relié au futur, c'est-à-dire quand on est anxieux à propos du futur, de ce qui va advenir, on imagine le pire, on va se faire des scénarios catastrophes, je me dis intérieurement, je ne vais pas pouvoir assurer lors de cette réunion, je vais peut-être tomber malade et ne pas avoir les moyens de me prendre en charge. Donc là, on est dans une anxiété relative au futur. La troisième catégorie, c'est le fait de suranalyser une décision. C'est-à-dire quand je veux prendre une décision ou je suis dans une situation où la prise de décision est nécessaire, eh ben, je vais douter. Je vais réfléchir sans réussir à trouver une solution. Cela peut attirer mes regrets qui vont se transformer en une torture mentale après. Donc là, c'est relatif à la prise de décision. Et il y a la dernière catégorie qui est liée particulièrement à ce que vous avez cité, c'est-à-dire les relations sociales. Donc trop cogiter dans des situations sociales, décortiquer les relations, les interactions. Je n'aurais pas dû faire cela. Je n'aurais pas dû dire cela comme ça. Est-ce que j'ai blessé la personne? Qu'est-ce qu'elle voulait dire en réalité? Est-ce qu'il n'y avait pas un message caché derrière la phrase qu'elle a prononcée? Donc là, ça peut impacter parce que ça nous pousse à faire des surinterprétations. Et donc, on est en train de discuter avec une personne, mais on est en réalité en train d'avoir un double dialogue. Un dialogue réel qu'on écoute, que tout le monde peut entendre, et celui qui se fait intérieurement et qui va biaiser notre relation à cette personne. On est en train de l'écouter, mais en même temps, on dit « Ah non, non, elle voulait me dire que je faisais mal les choses » ou « Elle voulait pointer du doigt, pardon, mon incompétence » ou « Elle voulait faire ceci ou cela ». Donc là, on a un double dialogue. Et ce deuxième dialogue caché, c'est lui qui va impacter négativement et même fatalement nos relations à autrui. Il va nous enfermer, il va nous pousser à nous retirer, il va nous éloigner des personnes qui peut-être nous apprécient ou qui peut-être ont du respect pour nous, mais on est tellement en train d'interpréter, on est tellement en train de mettre des explications ou des analyses sur les dires, sur les actions, que on va passer à côté d'une relation qui aurait pu être bénéfique et qui aurait pu nous apporter du plaisir dans notre vie.
Et justement, par rapport à cette dernière catégorie, est-ce que ça peut aussi s'expliquer par une obsession des gens, parce que d'autres personnes pensent d'eux, des gens qui un peu s'identifient par rapport à la manière dont les autres les voient, non ?
Alors, merci beaucoup Selma pour cette question, parce que vous êtes en train de me ramener à quelque chose que j'ai omis, c'est la confiance en soi. Si je n'ai pas assez de reconnaissance interne, si je ne me reconnais pas mes capacités, mes compétences et mes qualités, eh ben j'ai forcément besoin que les autres me les valident, que les autres me renvoient une bonne image de moi-même. Donc, si je suis hantée par la validation d'autrui, je serai tout le temps en quête de cette validation. C'est ça. Il faut que les personnes utilisent exactement les termes et le vocabulaire qui va me rassurer, ce qui est quasi impossible. Je veux dire, chacun va utiliser son propre vocabulaire, va agir et réagir de la manière la plus aisée pour lui. Donc, on ne sera forcément pas dans le schéma qu'on attend, dans le schéma qu'on voudrait voir. Et ça, on ne va jamais avoir un retour satisfaisant, un retour taillé sur mesure sur ce que nous attendons et sur nos espérances. Donc voilà, c'est en relation directe, ça s'est relié directement à la confiance en soi, à mon degré de reconnaissance interne par rapport à mes qualités, mes capacités, mes compétences, etc.
Et comment se défaire justement de ce overthinking en quelque sorte? Comment ne pas le laisser prendre beaucoup d'espace de façon à ce qu'on ait justement des rapports humains plutôt décents et corrects?
Alors Kalima, là je pourrais répondre en une phrase, une petite phrase, mais on va quand même aller, dans le détail des choses pour que ce soit plus facile pour pour les personnes qui nous écoutent, de mettre concrètement des actions et pour pouvoir s'en sortir concrètement. Alors la phrase, c'est « Vous savez trop penser à un sujet ?» ou à une problématique, ce n'est pas chercher des solutions saines. Donc si on arrive vraiment à intégrer cette notion, c'est-à-dire le fait de trop penser à quelque chose n'a jamais solutionné quoi que ce soit. C'est tourner en rond dans des pensées que nous avons déjà. C'est fermer la porte au nouveau, à ce qui pourrait venir, à ce qui pourrait s'injecter de nouveau et de d'étranger à nous-mêmes. C'est parce que ce qui est nouveau, c'est ce qui solutionne en fait. Si on reste dans ce qu'on a déjà, on n'aurait pas eu cette problématique à la base.
Tout à fait.
Donc déjà intégrer cette idée, c'est quelque chose qui va nous permettre de sortir de l'overthinking. Maintenant, si on veut vraiment donner des étapes ou des clés pour en sortir, on pourrait tout d'abord dire que pour sortir de la rumination mentale, il faudrait que nous puissions la remarquer. Nommer ce qui se passe en nous. Déjà, je le dis, je veux dire que toutes les problématiques dont on parle, vous avez dû le remarquer, Kalima et Selma, on commence toujours par la nécessité de nommer les choses, de les identifier.
Prendre conscience.
Exact. La prise de conscience est toujours une étape de démarrage. Donc, identifier aussi à quel moment ça intervient. À quel moment est-ce qu'on rumine mentalement? Est-ce que ça se passe le matin? Est-ce que ça se passe la nuit? Dans quelle situation? Est-ce que c'est quand je suis avec des personnes que je ne connais pas ou avec des personnes en particulier que je connais mais pour lesquelles j'ai une relation, avec lesquelles j'ai une relation peut-être problématique ou que j'ai envie absolument d'épater ou à qui j'ai envie de plaire. Donc, voir quand est-ce que l'overthinking se déclenche réellement, à quelle occasion. Ensuite, en deuxième étape, on pourrait déjà commencer à dealer avec notre cerveau et lui poser des limites. Lui dire, voilà, ce moment, lui déterminer les moments où l'overthinking peut être utile pour lui. Dans le sens où c'est vrai que bon, on est en train de faire une mauvaise presse à l'overthinking, mais l'overthinking peut être un moment de réflexion qui nous permette de définir les choses qui sont prioritaires pour nous, de voir ce qui pourrait être de l'ordre de la solution pour un problème que nous vivons. Bon, alors il faut que nous puissions discuter avec notre cerveau et lui dire voici tes limites, elles sont à ce niveau-là, et il faut que tu sois capable de te dire que le fait d'avoir, j'arrive même pas à dire overthinker, j'allais dire.
Je sais même pas. Overthinker.
Bah oui, c'est tellement ça maintenant parce que il y a pas de.
Ouais, il y a pas d'élimination.
Je n'y avais jamais pensé non avant non et ça colle parfaitement.
Mais c'est vrai que c'est rumination. En plus, c'est un peu péjoratif, donc c'est vrai que c'est mieux que overthinking, je trouve.
Voilà. Alors, si on va lui dire, voilà, à ce moment-là, si on tombe dans l'overthinking, ça va nous permettre d'anticiper des choses. Mais si à cette situation-là, on va glisser dans l'overthinking, ça ne sert strictement à rien parce que la problématique n'a pas encore eu lieu. Elle ne va jamais avoir lieu, comme vous avez dit Selma tout à l'heure, des choses peut-être qui ne vont jamais exister. Et donc, ça sert à rien, absolument à rien. Donc, lui poser des limites. La troisième clé, c'est de pouvoir extérioriser, en parler à quelqu'un en qui on a confiance, en évitant, bien entendu, et là je souligne, le fait de co-ruminer avec quelqu'un. Vous savez, des fois, vous partez, même au travail, j'aime bien le
vrai. Ça sent le vécu. Ça sort du cœur.
Ah, ça sort des tripes, là.
Forcément, on est des fois, on va vers un collègue, on lui explique notre situation, on commence à réfléchir à deux, et là, il a tellement cette facilité à ruminer mentalement qu'on tombe dans un piège. On ne solutionne rien, au contraire, on va s'enliser davantage en sa compagnie. Donc attention à la co-rumination qui peut être un piège encore plus grand que celui de l'overthinking en solo. Alors ensuite, la quatrième clé, c'est de pouvoir se dire, en fait, de prendre conscience que à l'image des sables mouvants, vous savez, quand on est bloqué dans des sables mouvants, on va se noyer si on se débat, si on cherche à se débattre. Vous savez, donc plus on va se débattre, plus les sables vont nous submerger. D'accord ? Alors il faut que nous soyons conscients que l'overthinking est quelque chose où les idées ou les pensées négatives sont des choses dont on ne peut pas se débarrasser. C'est-à-dire on ne peut pas se débattre contre les idées négatives. Vrai. On n'a aucun contrôle sur les pensées négatives. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt en prendre conscience et les laisser, je veux dire, nous traverser. Mm-hmm. Et se dire oui, pour ce cas-là, je peux anticiper, tant mieux. Très bien, donc je vais faire ce que j'ai à faire. Et pour cela, je n'ai rien à faire. Il n'y a aucun contrôle possible. Mmh. Donc je vais juste laisser la pensée glisser, la laisser me traverser et je passe mon chemin. La clé suivante, c'est de tourner son attention, c'est-à-dire faire le tri dans ses différentes pensées et tourner toute son attention vers vers ce qui est utile et vers les personnes qui sont importantes pour nous. Mmh. Donc, et se mettre clairement dans un mode de résolution de problèmes. Donc, on va chasser les idées abstraites ou les pensées abstraites et on va rester sur les pensées concrètes, ce qui est transformable en action tout de suite. Parce qu'il suffit d'être focus sur l'action pour pouvoir sortir du cercle vicieux de l'overthinking.
Eh ben, c'est sur ce beau conseil, joliment dit, Imane Jbilo, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui et on se retrouve lundi prochain.
J'espère que ça n'a pas été une occasion de co-ruminer ensemble. On a plutôt trouvé des solutions.
Non, c'était pas le cas. On a trouvé des solutions.
Oui, en général, je rumine et Karima m'arrête.
Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe généralement.
C'est un très bon duo. Je l'avais deviné à l'avance, mais là, ça se confirme.
Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Imane Jbilo.
Merci.
Ciao, ciao.
Au revoir.
Au revoir.